Revue de presse de l'April, semaine 23, année 2013. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Donc 6 articles, c'est ça, petite revue de presse, mais quelques articles très intéressants.
Alors 6 articles majeurs, mais on doit bien avoir 25-26 mineurs, parce que tout simplement, il y a des grosses news. Donc justement, la première, on vous en reparlera juste derrière. Donc l'éducation nationale est la priorité au logiciel libre. On va vous parler aussi de l'avancée du libre dans les administrations, de logiciels libres et propriétaires, partage des savoirs, une sorte de compte-rendu d'un débat particulièrement intéressant, le code informatique qui serait recommandé comme deuxième langue, et pour finir, on va vous parler de Genova, un petit gabia.
Développer.com, les logiciels libres ne seront plus prioritaires dans l'éducation nationale, ils seront envisagés mais plus préférés aux solutions propriétaires. Un article de Stéphane Lecalme qui est beaucoup plus court que ce que le titre pourrait laisser croire.
Un rapide compte-rendu de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ces derniers temps et malheureusement ça s'est pas passé au mieux pour nous.
Oui, on l'avait évoqué la semaine dernière, puisqu'évidemment on avait les infos, même si c'était pas encore paru dans la presse. Raconte-nous ça, Nicolas.
C'est passé, il y a un article de loi sur l'éducation nationale qui est actuellement en débat à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, et donc il y avait une phrase qui mettait la priorité sur les logiciels libres dans les formats ouverts et les documents et les appels d'offres.
Oui, c'était le Sénat qui l'avait passé, hein. Et donc en arrivant à l'Assemblée nationale...
Et en arrivant à l'Assemblée nationale, ils ont supprimé la notion de priorité, et c'est juste envisagé, c'est à prendre en compte, mais pas sans plus de priorité.
Bon, je rappelle, dans l'éducation, donc c'était Payon qui était à la manœuvre et on l'a vu, hein, parce qu'on a tous suivi ça de manière très proche au niveau de l'April, on l'a vu, il a exprimé le fait qu'il y avait des doutes légaux sur cette priorité, vous comprenez, le droit, les marchés, la compétition. Et puis il y a eu aux manœuvres derrière tout ça l'AFDEL et le Syntec numérique qui nous ont pas fait honneur les entreprises françaises parce qu'ils ont défendu vraiment le fait de pouvoir mettre du propriétaire dans l'école.
Donc un amendement porté par le gouvernement qui est celui qui a saboté tout ça. Donc aujourd'hui, la bataille n'est pas perdue. Ça doit repasser au Sénat. Ça fait beaucoup, beaucoup de bruit dans la presse. Manu, t'as remonté énormément d'articles. Ça fait vachement, vachement de buzz.
Et oui, j'en pouvais plus à force de devoir les mettre dans la revue de presse. On en était à une vingtaine, hein, quasiment. C'est la première fois que je vois ça.
Voilà. Et il y a également des députés de la majorité qui sont allés voir le ministre en disant qu'est-ce que c'est que cette embrouille, etc., etc. Donc ça fait pas mal de bruit. Nous, du côté de l'April, on a incité nos membres, et vous êtes les bienvenus à le faire si ça vous tente, à aller embêter un peu leurs députés en leur demandant des comptes et en leur demandant pourquoi, comment, et est-ce qu'on peut pas revenir en arrière.
Alors, tu dis embêter, moi je dis juste les informer parce qu'ils n'étaient pas forcément nombreux pendant les lectures et puis simplement c'est des sujets pointus, c'est une phrase qui sort pas forcément du lot de manière initiale, il faut juste leur apprendre de quoi il s'agit et pourquoi c'est intéressant.
On a des bruits de couloir qui nous laissent penser que c'est pas perdu, donc rendez-vous sur notre site si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, passer un petit coup de fil, envoyer un petit mail à votre député. Clubic.com, Mathieu Gendron, DSI de l'État, on avance sur le libre, un article de Thomas Pontiroli. Alors moi j'ai du mal à ne pas considérer que cet article serait lié à ce qui se passe sur l'éducation, à ce qui s'est passé sur l'accord Open Bar. Donc le gouvernement, avec la circulaire Hérault ayant pris une position pro-libre et dans les faits prenant en fait des décisions qui ne le sont pas, on se dit que peut-être ce DSI a été sommé par sa hiérarchie de montrer que le gouvernement, si, fait des efforts dans le domaine.
Donc Mathieu Gendron, en fait, est DSI à la Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication, donc on connaît bien la DISIC, et qui fait un peu le bilan de tout ce qui s'est passé de manière un peu officielle, donc la circulaire Hérault et puis l'éducation. Et donc on lui demande qu'est-ce qui est mis en œuvre dans le gouvernement par rapport au logiciel libre.
Donc en gros, de ce que lui-même exprime, ils ont fait un annuaire, ce qui est très bien, c'est une très bonne approche, hein. On en a pas mal à l'April justement, et là leur annuaire il a l'air de surtout concerner les outils bureautiques et les outils qu'on utilise au jour le jour, et ils seraient en train de travailler en ce moment même sur les logiciels qui sont plus utilisés sur les serveurs, les VMware, Xen et autres Citrix. Donc tout ça c'est des choses qu'on a précis, hein, moi j'aime bien. Donc il a l'air d'être très honnête et il exprime des choses intéressantes, notamment sur les peurs que ont les autres DSI de l'État, parce qu'ils sont plus d'un, hein, il semblerait, et ils ont un petit peu peur notamment du support.
Oui, moi je trouve que l'argument il tient pas vraiment, c'est-à-dire que c'est un argument qu'on entendait il y a quelques années de ça, en disant « Ah dans le libre, c'est la communauté, c'est pas sérieux, c'est juste des gens éparpillés dans la nature ». Bon, hormis le fait que ça marche, on a quand même des entreprises françaises ou étrangères dans le libre qui sont capables de faire du support, et que cette question propriétaire libre par rapport au support, elle a pas de sens.
Et puis surtout que les SS2L, donc les sociétés de services en logiciel libre, leur business model c'est de faire du support. support. Donc je les vois mal se tirer une balle dans le pied en n'en proposant pas. Donc il n'y a pas de souci. Si on veut du support, dans le logiciel libre, il n'y a absolument aucun problème pour en trouver, que ce soit la communauté ou les entreprises.
Il parle quand même de l'accord Open Bar et des questions de sécurité.
Oui, donc là, il dit qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter, que le ministère de la Défense sait ce qu'il fait, que les pseudo-failles, ils ont supposé qu'il y en avait partout, donc ils vont remettre des surcouches à tout ça. Bon, les exemples qu'il cite... Il y a déjà des surcouches qui existent, mais après, je pense que les surcouches, ça doit être aussi du privateur, donc ça doit pas être le bon choix.
Challenge.fr, face à Windows et macOS, les logiciels libres n'ont pas dit leur dernier mot à un article de Paul Loubière. Paul Loubière, qui, je tiens à le préciser, est un de mes anciens profs d'université.
Donc, c'est un article qui est plutôt intéressant, hein, qui parle du marché, c'est plus économique, ça parle des entreprises, les boîtes comme Liferay notamment, et puis ça dit, effectivement, il y a un marché des plus intéressants, il y a des pépettes à se faire dans le logiciel libre.
Donc eux, ils mettent surtout en avant toute la partie mobile, donc avec les systèmes Android, les tablettes, où effectivement les solutions libres arrivent quand même à quasiment 38% de mobile, dans les mobiles, donc ils découvrent un peu le business à ce niveau-là, et que c'est vraiment un endroit où ils peuvent aller, que ça commence à se déployer, et que les entreprises, faut qu'elles commencent à regarder ce côté-là, quoi.
Ce qui est assez rigolo, c'est que, bon, à part si l'article ne parlait pas de téléphonie, donc de trucs récents, ça donnerait l'impression que cet article a été écrit à l'époque où moi-même j'étais étudiant de Paul Loubière, pour le coup, parce que c'est un peu dans le genre « Oh, regardez, il existe du logiciel libre, c'est incroyable !» Il y a un peu ce côté découvert, tout ça, donc on suppose que l'article est destiné, c'est la presse économique, voilà, à des gens qui sont pas du tout au fait de ces trucs-là, et l'article est en mode « Si, si, c'est sérieux, ça marche, tout ça », c'est un peu la grande découverte avec 5 ans de retard, quoi. Il y a 5 ans, j'étais plus étudiant depuis longtemps, donc je suis un peu mauvaise langue. Carré d'infos, partager les savoirs, c'est bouleverser l'ordre mondial, par Pauline Croquet.
Donc un relativement long article que moi j'ai trouvé un peu dispersé.
Moi j'ai trouvé très bien.
Ouais, moi j'ai un peu des deux, moi je vais dire. Effectivement, c'est un peu dispersé parce que ça touche à beaucoup de domaines. Donc il parle de la philosophie du do-it-yourself avec les FAI maison, l'impression 3D, des choses comme ça. Enfin un peu ce qui est l'actualité du libre, on va dire, aujourd'hui. Bah, ça présente, ça fait un peu une rétrospective de tout ce qui se passe dans ces domaines.
Bah justement, moi c'est ce que je trouve intéressant, c'est que bon, alors déjà l'article a une très bonne qualité rédactionnelle. Je trouve qu'il est bien écrit, ça se lit très, très facilement. Donc ça c'est agréable. Et justement, bah, il lit tous ces éléments puisque ça fait partie du paysage. On a du logiciel libre, on a effectivement du do yourself, de l'open hardware, de l'open data, de l'impression 3D, et il montre, il trace un fil directeur entre tout ça pour montrer quelle est la cohérence, et c'est un article toulousain, donc à chaque fois il va citer des acteurs locaux, donc qui montrent qu'à Toulouse il y a des gens qui prennent tous ces trucs en main, et ça c'est génial.
J'ai adoré, alors ça doit être Laurent Gerby, le gars de tetaneutral.net, qui est un fournisseur d'accès si je comprends bien, et j'ai adoré ses explications sur les blocages des FAI, donc des fournisseurs d'accès, sur leur réseau, notamment il y a un petit blocage de free qui bloque YouTube. Ils n'ont pas l'air d'aimer parce qu'ils disent que ça coûte trop cher.
Alors, ils bloquent pas, ils ralentissent. Hein. Les abonnés free savent qu'aller sur YouTube, c'est toujours compliqué. Et free dit ça nous coûte trop cher d'aller là-bas, ils n'investissent pas dans le réseau, etc. Et là, donc, ce fournisseur d'accès, qui est un fournisseur d'accès associatif, dit ça ne coûte pas plus cher d'aller sur YouTube qu'ailleurs. C'est surtout pour vous donner l'envie de payer vos vidéos et d'aller payer pour avoir des...
Et ouais, et donc ça, tout ce truc-là, j'avoue, ça ouvre un peu les yeux. Parce que t'as beau dire, mais moi, quand je vais sur YouTube pour aller regarder un truc, je suis bloqué. Parce qu'à un moment donné, j'arrive pas à la voir, ma putain de vidéo. Et donc, effectivement, aller louer un film, ça me coûte un peu plus cher, mais ça marche bien. Ça ouvre les yeux sur ce modèle-là, et ça fait un peu mal au cœur, par ailleurs, quand on comprend pourquoi on est pris.
Mon fournisseur d'accès, personnellement, ne me ralentit pas quand je vais sur YouTube, et je ne comprends pas qu'on reste chez un fournisseur qui te bloque.
Parce que c'est aussi ça l'avantage du libre, on peut faire un peu ce qu'on veut. Là, par exemple, Theta Neutral a monté son propre fournisseur d'accès. Après, on peut être chez des gros qui respectent plus la neutralité du web, mais, ou du internet. Donc, mais si vraiment on a envie de faire bouger les choses, on peut le faire. On a tout le matériel à disposition et on peut vraiment s'impliquer dans ce monde-là.
Donc si ça vous tente, ces questions de fournisseurs d'accès internet associatif, vous pouvez aller voir FFDN, donc qui est une FFDN, oui, qui est une association. Donc FDN, c'est le premier fournisseur d'accès associatif et qui a créé une fédération, parce que son objectif c'était pas de devenir une espèce de gros monstre, pour qu'il y ait plein d'associations qui prennent exemple sur elle et qui fassent comme ça des fournisseurs d'accès associatif. Et c'est un peu plus cher que quand on va auprès d'un gros fournisseur, mais on gagne en liberté, on connaît les gens qui administrent, on sait qu'on n'est pas censuré, etc. On peut vérifier tout ça, et si le truc vous intéresse, allez voir FFDN, cherchez ça dans un moteur de recherche, et vous trouverez des infos. Atlantico, faut-il laisser tomber l'allemand, le chinois ou l'espagnol, et faire code informatique seconde langue? Donc c'est une interview menée par Benjamin Veil, de deux personnes qu'on apprécie et qu'on connaît très bien, puisqu'il y a Jean-Pierre Archambault, qui est quelqu'un qui est retraité maintenant, mais qui a travaillé dans l'éducation passion et qui est un libriste convaincu et qui connaît très bien son sujet, et Rémi Boulle, qui est vice-président de l'April et qui est dans l'éducation nationale, donc il connaît également très bien son sujet. Donc une belle interview sur 3 pages.
Donc il aborde sous l'aspect, en fait, est-ce qu'on devrait enseigner aux étudiants, aux élèves, l'informatique vraiment pure et dure, c'est-à-dire vraiment du langage, coder, apprendre à coder, apprendre à faire des programmes, et plus simplement à utiliser l'informatique comme un outil. Parce que donc ils essayent de creuser cette idée-là, et bien arrivent à montrer que c'est par la compréhension de l'informatique aujourd'hui qu'on arrive à développer des choses, que beaucoup de choses tournent autour de ces concepts-là, et donc si on fait que servir d'un ordinateur juste comme un ordinateur, et on passe à côté de beaucoup de choses, et qu'au final c'est pas beaucoup plus utile qu'un stylo.
Donc moi je pense que c'est un article qui vaut la peine d'aller le consulter. Donc il aborde effectivement quel genre de langage on peut avoir à apprendre, qui sont pertinents, comprendre ce que c'est que le réseau. Upstream University aussi, il y a une petite mention, c'est un truc qui est mené par Loïc Deschary qu'on aime bien à l'April, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un des gourous français, je dirais, du libre. Et donc, vraiment, comment se prendre par la main pour comprendre ce qui nous entoure, le code, et sortir de ce que fait l'éducation nationale aujourd'hui, qui est un peu mauvais.
Moi, je retiens 2 idées fortes de ce truc-là que je trouve vraiment très très bonne. La première, c'est que l'informatique étant présente partout et permettant de traiter l'information, savoir coder, comprendre comment ça marche, c'est avoir du pouvoir sur sa vie, et ce sera de plus en plus vrai. Et donc c'est effectivement une nécessité que d'avoir ces compétences-là, même si on n'est pas informaticien, savoir comment ça marche, c'est vital. Second point que je trouve très intéressant d'un point de vue pédagogique, et souvent quand on entend parler d'éducation nationale, on parle d'heures de cours, de machin, etc. Là, Jean-Pierre Archimbaud nous parle d'enseignement vraiment, et il dit quand on met un élève devant un truc à apprendre par cœur ou des exos de maths à faire, il en fait 9 sur 10, il est content. Quand on le met face à un programme à réaliser, il construit quelque chose, et donc pédagogiquement il a ce plaisir de faire quelque chose et il va jusqu'au bout et il reste le temps qu'il faut. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'entend jamais dans les questions d'éducation, et ça je trouve ça vraiment bien.
Il y a un autre passage qui m'a assez intéressé. Dans l'article, il parle vraiment du retard que prend la France dans ce domaine-là, avec l'exemple qu'en France on aime bien donner des tablettes Apple donc ultra privateur, où on peut absolument rien faire sinon l'utiliser, alors que en Grande-Bretagne ils vont donner des plateformes Arduino et des Raspberry Pi qui sont en fait des petites plateformes complètement libres où on peut faire ce qu'on veut dessus, on a vraiment la main sur le système. Donc ça montre bien le décalage entre les qu'on prend du retard là-dessus, quoi.
Agoravox, Genova, un militant des logiciels libres et open source, un article de Sedou Badian. Donc c'est un portrait d'un libriste qui a la particularité d'habiter Dakar, manifestement.
Et oui, donc on voit sa photo en première page, enfin directement sur l'article. Donc c'est intéressant parce que justement c'est un monde francophone qui fait du libre, mais qui fait pas tout à fait de la même manière que chez nous, parce que on n'a pas les mêmes approches et ils n'ont pas aussi les moyens de se lancer là-dedans. Donc on voit un petit peu comment il a démarré, on voit qu'est-ce qu'il en fait aujourd'hui, ce qu'il veut en faire, et on voit aussi le monde associatif de son point de vue, qui est pas tout à fait la même chose que chez nous, quoi.
Ouais, ça change un peu, c'est vrai qu'ils ont pas les mêmes moyens, mais ils ont commencé comme nous, hein, comme l'exemple qu'il donne de faire un Monkey en Visual Basic. Bah oui, c'était tout le monde avait commencé comme ça, même en France, et voilà, donc ils montrent bien qu'ils arrivent aussi à faire des applications avec Twitter, donc ils sont quand même bien au courant de tout ça, et bien ils arrivent à se développer, et que c'est une belle rétrospective, un bon exemple de ce qu'on peut faire dans ces pays-là.
C'est de ce qu'on peut faire en étant dans le pays, c'est-à-dire ça montre que le logiciel libre, c'est quelque chose qu'on s'approprie et que tout le monde peut mettre les mains dedans. Il lui explique qu'il a récupéré un vieil ordinateur IBM et qu'il a appris sur le tas avec un manuel. Bon, il avait l'esprit à ça, c'est un authentique geek, hein. Il a un pseudo assez rigolo qui est Dovby, ce qui en Wolof veut dire le fou. Donc en gros, quand il s'est mis à faire ça, je pense que c'est l'histoire commune à beaucoup de geeks, quel que soit l'endroit où ils sont nés, tout le monde les a pris pour des dingues. Et voilà, et puis il parle des liens qu'il a avec d'autres associations, d'autres LUG qu'il peut y avoir en Afrique, que ce soit Afrique subsaharienne ou en Afrique du Nord. Et voilà, ça fait plaisir de voir que tous ces gens travaillent ensemble. Et voilà, c'était le tour de la revue de presse de la semaine 23. Merci à vous deux et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ouais. Salut tout le monde.